Bonjour à tous et bienvenue dans ce 17e épisode du podcast La Boîte à Clés. Je suis Catherine Baudin, je suis coach en développement personnel et professionnel et je suis ravie de vous accueillir ici. L'objectif de ce podcast est de vous apporter des sources d'inspiration sur des sujets très variés et pour cela, je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour qu'elles nous racontent leur histoire, leur parcours et leur état d'esprit. Et dans une deuxième partie d'épisode, je partage avec vous des outils et astuces pratiques en lien avec le thème de l'interview pour que vous puissiez les mettre en application dans vos propres situations. Je vous rappelle bien entendu que si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez vous abonner sur la plateforme de votre choix, le partager ou encore, et ce qui est extrêmement important, est de mettre une note 5 étoiles ou un avis sur iTunes et me faire vos commentaires et vos feedbacks. C'est ça qui va me permettre de faire connaître le podcast, de le faire progresser et surtout de me donner de l'énergie pour le poursuivre. Pour notre épisode du jour, je suis allée à la rencontre de Jérôme O'Haraud. Jérôme est conférencier, formateur et co-auteur de deux livres, Le réflexe Soft Skills et Soft Skills, développer vos compétences comportementales, un enjeu pour votre carrière. Tout ceci aux éditions d'Uno. Il est également champion du monde de mind mapping depuis décembre 2018. Dans cette interview, il nous parle de ses différents domaines d'expertise, l'intelligence, le mind mapping, les soft skills, autrement dit les compétences comportementales, et plus précisément de celles qui sont selon lui indispensables dans notre monde actuel. Il nous partage ses astuces pour entraîner et muscler notre cerveau et améliorer ses performances. Il nous explique également sa capacité et l'importance selon lui de transformer chaque situation ou difficulté de la vie en un défi à relever. Je vous laisse donc en compagnie de Jérôme O'Haraud et vous retrouve en solo juste après cette interview. Bonjour Jérôme.
Bonjour Catherine.
Merci beaucoup de m'accorder ce moment d'échange. Je suis vraiment ravie d'avoir ce moment avec toi. Tu es à Londres, c'est ça, en ce moment même ?
C'est exact, oui. Là, je suis à Londres. Je vis à Londres. Bah, et merci de m'accueillir sur ton plateau pour parler de ces sujets passionnants.
Bah, écoute, c'est un vrai plaisir. Alors, par où commencer ? Il y a beaucoup de choses à dire. En quelques mots, on va dire aujourd'hui, en synthèse, tu es conférencier et formateur, c'est bien ça ?
C'est ça.
Co-auteur du livre Soft Skills, développer vos compétences comportementales, un enjeu pour votre carrière, que j'ai juste à côté de moi d'ailleurs.
Les éditions d'Uno, c'est bien ça.
Mais pas que, hein, je cite celui-ci parce que c'est le plus récent, c'est ça, mais il y en a d'autres, en tout cas il y en a au moins un autre.
Oui, il y avait le Reflex Soft Skills, toujours aux éditions d'Uno, qui est sorti en 2014.
D'accord, c'est ça. Et puis, tu es également champion du monde de mind mapping en décembre 2018, si je ne me trompe pas, en
voilà,
Chine.
Voilà, c'est ça, oui. Donc, c'est la dernière actu, on va dire. Je suis revenu avec la médaille d'or pour le mind mapping d'un écrit.
Ok. Et il me semble d'ailleurs que c'est la première fois que la France est sur le podium à cette discipline, hein, c'est ça ?
Ah oui, pour le mind mapping, oui. Parce qu'il y a eu la lecture rapide en 2018 où c'était Mohamed Koussa qui avait gagné le championnat du monde de lecture rapide. Et là, pour le mind mapping, bah, c'est vrai que c'était une première pour la France.
D'accord. Bon, soft skills et mind mapping, on va y revenir juste après. Et je voudrais quand même aussi revenir sur un autre point. Tu es aussi cofondateur de lesintelligences.com.
Oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit exactement ?
Alors, lesintelligences.com, c'est fortement lié au mind mapping et au soft skills. Je vais expliquer pourquoi. Lesintelligences.com, ce que l'on fait, c'est qu'on choisit les meilleurs livres d'entrepreneuriat, de développement personnel et d'apprentissage. On les teste, on les lit, on met en pratique les techniques ou les actions à mettre en place préconisées par les auteurs. Et ensuite, on en fait une sorte de tutoriel, un vrai cours sur qu'est-ce que nous avons mis en place grâce au livre, comment le faire, qu'est-ce que ça nous a apporté. Et on complète tout cela de recherches documentaires ou d'expériences personnelles. Donc, quelque part, on augmente l'expérience du livre. On ne lit pas le livre, hein, ce n'est pas une synthèse. On ne dit pas que ça remplace le livre. Hein. On est là juste pour dire, on a testé le livre. On recommande le livre, hein, parce qu'on ne va pas faire des cours sur des livres qu'on ne recommande pas. Et l'idée, c'est ça, c'est que chaque personne ensuite puisse repartir avec un cours de 1 heure en vidéo, un podcast audio, une mind map qui synthétise tous les points clés de ce cours, une liste d'actions à réaliser en format A4 et du coup on repart avec ça et on publie chaque semaine un nouveau cours, que ce soit sur l'entrepreneuriat, sur l'apprentissage ou sur le développement personnel.
D'accord. Donc, ce que tu es en train de dire, si je comprends bien, c'est que ça va au-delà de la synthèse du livre, puisqu'il y a effectivement les éléments clés à retenir, à comprendre du livre, mais aussi un cours, un tutoriel par rapport à la thématique du livre et une to-do list, hein, c'est ça, avec laquelle la personne repart pour pouvoir mettre en application les éléments essentiels du livre dans sa propre vie, c'est ça ?
C'est exactement ça. On va vraiment creuser, on va tester. Et les personnes qui font les cours, donc il y a Nicolas, Lysia, mon associé et moi-même. D'ailleurs, c'est notamment en grande partie grâce à ce site et au cours que j'ai créé que j'ai pu m'entraîner à cette discipline de la lecture rapide. Donc ça m'a vraiment aidé par rapport à ça. Et voilà, donc tous les contributeurs de ce site sont des pédagogues. Des formateurs. Donc, c'est vraiment à chaque fois une formation, en fait.
D'accord. Justement, quand tu dis « on », j'allais te poser la question, c'est qui ? On, c'est toi, ton associé, et puis il y a d'autres personnes. Vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui ?
Alors, on a une petite équipe d'environ 10 personnes, dont des coachs en apprentissage efficace que l'on a formés et qui justement, sont formés à toutes ces techniques-là. Et sinon, quelque chose que j'ai oublié de dire aussi, il y a quelque chose qu'on a lancé très récemment, des interviews d'auteurs. On commence à avoir de plus en plus d'interviews d'auteurs. Là, c'est l'auteur en lui-même qui fait le cours en mode… moi, je vais challenger l'auteur avec des questions, etc. Mais ça permet vraiment d'apprendre à la source. Donc là, dernièrement, j'ai interviewé Ling Nsia, qui est l'auteur du guide du blogueur chez Erol, en fait, aux éditions Erol. Donc à chaque fois, maintenant, on va commencer à de plus en plus interviewer les auteurs directement.
D'accord, ok. Comment tu fais pour choisir, que ce soit les auteurs, puisque là tu viens d'en parler, ou les livres que tu veux recommander ou sur lesquels vous décidez de travailler ? Comment vous les choisissez ?
Alors la première source d'inspiration, ce sont nos partenaires. On leur demande à chaque fois quel est ton livre préféré ou le livre que tu recommanderais aux autres personnes. Et on leur demande un seul livre, et le livre au plus grand impact. Donc on a eu une liste de des 60 livres que l'on a eu. Pour l'instant, c'était souvent donc des recommandations comme ça. Il y a ça en termes de source d'inspiration. Ensuite, moi je me documente beaucoup sur des podcasts, sur Internet. Et il y a un podcast que j'écoute beaucoup qui est celui de Tim Ferriss, mm-hmm. qui parle justement, à chaque fois, il mentionne pas mal de livres. Donc j'en ai trouvé pas mal aussi, des livres comme ça, grâce à Tim Ferriss. Et après, dans une moindre mesure, je regarde aussi par mots-clés, je regarde les tendances sur Amazon ou ailleurs, par rapport à un mot-clé, comme par exemple, là, dernièrement, c'était le mot Ikigai, j'ai pris le best-seller de ce mot-clé, et ensuite, j'ai complété ça par une recommandation d'une autre personne pour toujours sur cette thématique-là. Donc voilà comment on source les différents livres. Et après, oui, pardon. Et ensuite, pour la partie auteur, c'est aussi pas mal lié à de la mise en relation, de la recommandation également.
D'accord, ok. Alors, tu parles d'ikigai, c'est une notion qui m'intéresse particulièrement parce qu'écoute, je t'avoue que moi, je vais animer un atelier avec des personnes qui ont envie de travailler sur leur ikigai. Donc, c'est un sujet que je travaille particulièrement en ce moment et qui m'intéresse beaucoup.
Excellent.
Qu'est-ce que tu peux m'en dire, toi ? Qu'est-ce que tu en penses de cette technique de réflexion ?
Ben moi, je trouve ça super intéressant parce que c'est ce qui permet de donner plus de focus à nos décisions, en fait, nos décisions d'action, à nos décisions de vie. Et moi, personnellement, ça m'aide, sachant que je suis quelqu'un de très transversal. J'aime bien avoir plusieurs activités parce que tu as dit conférencier formateur, mais je fais aussi les intelligences, j'ai aussi toute la partie entrepreneur, où il faut développer les ventes, il faut aussi manager le site internet, manager une équipe, le fait de travailler sur l'ikigai, c'est à chaque fois de trouver le fil conducteur à tout ça, donner du sens à ce que l'on fait. Donc, du coup, avoir la motivation le matin, même si des fois, on n'a pas envie, parce qu'on sait que derrière, il y a un enjeu qui est bien défini par cette ikigai et que tout ce que l'on fait a du sens, même si on fait plusieurs choses différentes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis et je m'assure en faisant ça de toujours faire des choses que j'aime, des choses pour lesquelles je suis compétent ou je sais que je vais monter en compétence consciemment pour ça. Je sais que c'est quelque chose d'utile et qui, en plus, a aussi un avenir économique et pas juste faire une passion et que derrière, personne n'est prêt à payer pour mon service. parce qu'on est quand même dans une société capitaliste et c'est quand même important de pouvoir vivre de ce que l'on fait. Donc voilà comment je vis mon ikigai, moi, de mon côté.
Donc, est-ce que ça veut dire que c'est ce que je dois comprendre, c'est que c'est un outil que tu utilises entre guillemets en permanence. Alors, je pense que t'es pas en train tous les jours de faire ton ikigai, mais en tout cas, de manière régulière, tu te reposes des questions, tu vérifies, en tout cas, tu checkes que tu sois bien dans ton ikigai, tu te reposes des questions pour voir si t'es bien dans la bonne direction, c'est ça?
Pour faire un point sur qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai bien fait et que j'ai continué à faire, qu'est-ce que j'ai mal fait ou que je ne veux plus refaire pour le mois prochain et qu'est-ce que je n'ai pas encore fait que je vais tester. Donc là, je fixe ça tous les mois. Et du coup, cette réflexion en filigrane, alors peut-être pas de manière formalisée, mais en tout cas de manière en filigrane comme ça en arrière-plan, il y a toujours cette question d'ikigai parce que bah, dans ce qui a bien fonctionné, généralement, ça touche à l'ikigai. C'est des choses que j'aime, donc je fais avec enthousiasme. C'est des choses pour lesquelles bah, je suis compétent, donc ça se passe bien. C'est des choses qui ont un retour économique, donc ça veut dire qu'il y a un besoin et qu'en plus, une réalité économique. Donc je pense qu'il y a ça derrière de latent et que si jamais je sens qu'il y a un blocage, eh bien, je vais me questionner sur bah, d'où vient le blocage. Est-ce que c'est plutôt la réalité économique? Est-ce que c'est plutôt la motivation intrinsèque, et du coup de l'enthousiasme, ou est-ce que c'est plus un manque de compétences? Donc, je dirais qu'il y a ça comme dimension. Et ensuite, la deuxième manière dont j'utilise l'ikigai de manière régulière, c'est quand je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Moi, je sens que bah voilà, ça va pas, j'arrive pas à prendre une décision.
Comment tu le sens? Est-ce que ça, tu le ressens même physiquement?
Alors, d'un point de vue, ah oui, bah clairement, en fait, quand je me sens pas bien, que je sens que c'est dans une phase un peu creuse, eh bien là, je me dis ok, il y a un signal, il faut creuser. Donc du coup, bah quand je creuse, je me dis ok, bah qu'est-ce qui va pas? Est-ce qu'il y a des choses que je fais qui ne sont pas alignées? Et je me questionne régulièrement sur est-ce que je suis aligné ou est-ce que je suis en dispersion? Et donc dans ces moments-là, bah, quelque part, il y a l'ikigai qui revient, oui.
D'accord. Et donc concrètement, c'est vraiment un temps, ce temps d'introspection que tu fais tous les mois, c'est vraiment un temps que tu te planifies, parce que souvent quand on est entrepreneur et multi-activité comme tu peux l'être et comme je le suis aussi, on peut vite en tout cas se laisser déborder par le quotidien et par tout ce qui... Même quand on n'est pas entrepreneur, d'ailleurs, de toute façon. Donc, est-ce que c'est vraiment un temps que tu te planifies, que tu te consacres vraiment tous les mois, tu n'y déroges pas, c'est inscrit dans ton agenda? Et à peu près combien de temps ça te prend de faire ce travail de réflexion chaque mois?
C'est un rendez-vous mensuel. Donc, du coup, c'est dans mon agenda, j'ai rendez-vous. C'est un rendez-vous que je ne décale pas. Alors, ce n'est pas tous les mois, même jour, même heure. C'est que
Bien sûr.
je sais que j'arrive à la dernière semaine du mois. Donc, du coup, je cale le rendez-vous pour la semaine d'après. Oui, j'essaie d'être assez rigoureux là-dessus. Et c'est pas que, d'ailleurs, ce n'est pas que pour les réunions mensuelles, hein. Je fais ça pour beaucoup de mes tâches. Où je note dans mon agenda quand je dois travailler sur certaines tâches hyper importantes, par exemple. Et oui, j'essaie de ne pas y déroger et généralement, je me donne au moins une bonne heure pour mettre à plat. L'idée, ce n'est pas non plus de passer une journée à réfléchir. À un moment donné, bon, faut aussi avancer. Mais une heure,
Bien
déjà, je
sûr, non,
trouve.
mais déjà 1 heure, déjà se consacrer 1 heure tous les mois, c'est déjà très beau. En tout cas pour ce sujet-là, hein, parce que bien évidemment on peut se consacrer plus de temps, mais en tout cas vraiment 1 heure destinée à se poser des questions intrinsèques en fait.
Alors, il n'y a pas que les questions intrinsèques en une heure. Hein. C'est-à-dire qu'après, moi, je vais aussi poser des questions sur okay, quelles sont les priorités du mois, quels sont mes objectifs. Donc, il y a aussi une sorte de planification opérationnelle derrière et pas juste de la stratégie interne. Donc, dans une heure, il y a tout ça,
D'accord.
en fait. Parce que pour moi, tout est lié. C'est-à-dire que je ne vais pas uniquement faire de l'introspection pour comprendre. C'est pour moi, ça, c'est un outil de prise de décision pour passer à l'action. Et que les actions m'envoient des indicateurs et des informations vers moi-même. Donc, c'est vraiment communicant dans les deux sens et je ne peux pas dissocier les deux, en fait.
D'accord. J'aimerais bien, si toi tu le veux bien aussi, qu'on revienne sur la notion de soft skills. Comment tu peux nous définir cette notion-là aujourd'hui, de manière assez, en tout cas simple et abordable, pour les auditeurs?
Alors, les soft skills sont des compétences comportementales et transversales. Alors là, tout de suite, on me dit, OK, c'est pas forcément simple et compréhensif, parce que c'est hyper conceptuel. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs analogies. On va prendre par exemple un boxeur. Moi, j'aime bien cette analogie. Un boxeur, pour être bon, il a besoin d'apprendre les techniques comme les coups droits, les crochets, les hypercutes, etc. Savoir donner des coups de poing et des bons coups de poing. ça fait un boxeur. Mais ce qui fait un champion ou un très bon boxeur ou un boxeur qui peut faire de la compétition ou un boxeur professionnel, eh bien, c'est pas ça, c'est pas que ça. C'est aussi de l'endurance, de l'autodiscipline, c'est aussi de la motivation, de l'endurance, etc. Donc, c'est toutes ces compétences annexes, entre guillemets, qui font la différence. Et bien, les soft skills, c'est ça. C'est par exemple, quand on est podcasteur, voilà, tu dois maîtriser des outils techniques, hein, comme savoir utiliser Skype, faire un micro, un enregistrement, un montage, mettre sur iTunes, etc. C'est important. Sans ça, tu ne peux pas faire ton métier de podcasteur ou podcasteuse. Ce qui va faire de toi quelqu'un de bon dans ce domaine, ça va être tous les à côté, comme ta capacité d'écoute, ta créativité pour poser de bonnes questions, ta patience aussi, ta rigueur pour pouvoir faire toutes les semaines ou tous les mois un nouvel épisode. Tout ça, ce sont des soft skills.
Ok. Et est-ce que, selon toi, il y a des soft skills qui sont plus importantes que d'autres, ou en tout cas qui se retrouvent, puisque là tu nous as donné différents exemples, qui se retrouvent de manière générale à peu près dans tous les domaines ou dans tous les métiers?
Bien, souvent, tu parlais tout à l'heure d'une de mes casquettes qui est celle de conférencier, et c'est que souvent les entreprises font appel à moi pour donner des conférences sur le futur des compétences ou le futur des métiers, sachant que tout est en bouleversement par rapport à la digitalisation et l'avènement de l'intelligence artificielle. On voit de plus en plus d'actualités qui montrent qu'il y a tant de millions. Là, dernièrement, c'était McKinsey qui disait qu'en 2030, 800 millions d'emplois vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle, parce que de plus en plus de robots vont faire des actions que les humains ne font plus. Mais à contrario, il y a aussi tous les autres métiers. Il y a 40% des métiers qui n'existent pas encore, qui vont être créés aussi vers 2030. Et donc, tout cela demande de nouvelles compétences. Et par rapport à tout ça, selon moi, et par rapport à mes recherches et par rapport à ce que j'ai entendu, il y a quand même au moins deux grosses compétences qui sont indispensables à cultiver, selon moi. La première, c'est la capacité à apprendre ou apprendre à apprendre.
D'accord.
Et c'est pour ça que je fais aussi tous ces métiers liés à la lecture rapide, au mind mapping, aux techniques d'apprentissage efficaces. Pourquoi ? Parce que dans un monde qui change, nos compétences vont devenir obsolètes, ce qui veut dire qu'il faut les actualiser ou en apprendre de nouvelles. Et justement, la compétence qui permet de le faire, c'est celle-ci, apprendre à apprendre. Donc pour moi, ça, c'est la première compétence qui est valable pour tout le monde. La deuxième compétence ensuite, qui est hyper importante et qui est assez liée à ça, c'est notre capacité à nous adapter. Et ça, c'est le fort de l'humain. Et bien entendu, dans ces deux compétences, il y en a d'autres qui sont cachées, ça fonctionne en grappe. Par exemple, pour apprendre à apprendre, il y a de la concentration, de la prise de recul, etc. Pour adaptabilité, il y a de la gestion des émotions, de la prise de décision, le passage à l'action. Mais déjà, je dirais qu'il y a quand même ces deux grosses familles hyper importantes pour aujourd'hui et pour demain, apprendre à apprendre et notre capacité à s'adapter.
D'accord. Et alors, par rapport à ces deux éléments-là, quels sont les principaux conseils que tu donnes pour développer ces soft skills?
Déjà, je dirais la curiosité, c'est-à-dire s'intéresser à plusieurs sujets. Je ne vais pas dire à tout, parce que tout ce serait trop, mais de régulièrement essayer de s'intéresser à des sujets auxquels on n'est pas à l'aise ou qu'on ne connaît pas, et de vraiment développer cette curiosité avec enthousiasme pour pouvoir ouvrir notre cerveau à la nouveauté. Et c'est ça, en fait, qui est le départ de la plasticité cérébrale, c'est-à-dire le fait de sortir notre cerveau de notre zone de confort, aller explorer l'inconnu, c'est là qu'il va développer de nouvelles connexions neuronales. Déjà, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je recommande d'utiliser les techniques d'apprentissage efficaces comme la lecture rapide ou le mind mapping, parce que ce sont des outils qui musclent le cerveau. C'est des vrais entraînements du cerveau. Et d'ailleurs, mon associé Nicolas Lisiac de contribuer à une étude scientifique qui a prouvé qu'un entraînement de lecture rapide de 1 heure peut augmenter jusqu'à 20% de performance cérébrale. Donc là, c'était une étude auprès de radiologues.
D'accord.
Donc il y a vraiment un vrai impact positif sur le cerveau par rapport à ces outils-là.
D'accord.
Et ensuite, quelques astuces pour la partie adaptabilité, en fait. Et pour ça, pour moi, c'est déjà le goût du défi et le réflexe du défi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, c'est OK. Et si je transforme ça en défi, parce que dès que je transforme une difficulté en défi, je ne suis plus dans la réaction face à un événement. Je suis dans
l'action.
voilà, dans l'action. J'ai un nouvel objectif. Déjà, il y a un changement psychologique vis-à-vis de la difficulté. Et ensuite, c'est de passer à l'action. Voilà, tout simplement, c'est défi, décision, action. Et ensuite, analyse du résultat. Et quand on est dans cette dynamique-là, on est dans une dynamique d'amélioration continue. Parce que j'ai un défi, je prends une décision, donc je suis proactif, je passe à l'action, ce qui fait que j'ai des résultats. Et suite aux résultats, qu'ils soient positifs comme une victoire ou qu'ils soient désagréables comme une défaite ou un échec, bien, dans tous les cas, j'analyse pour voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce que je peux mieux faire.
Alors, par rapport à ce que tu dis là, est-ce que tu penses que globalement, tout le monde peut développer toutes les soft skills? Je m'explique pourquoi je te dis ça. Moi, j'aime beaucoup et je travaille beaucoup avec la psychologie positive, qui est la science du bonheur, la science de l'épanouissement personnel, mais je pense que tu connais. Et dans la psychologie positive, on dit beaucoup qu'il faut savoir capitaliser sur ses forces et non pas, comme on sait très bien le faire habituellement, se focaliser sur nos faiblesses. Et plutôt chercher à développer et à vraiment, encore une fois, capitaliser sur nos forces plutôt qu'à vraiment chercher à améliorer coûte que coûte nos faiblesses, enfin ce qu'on appelle nos faiblesses, parce que finalement, on va risquer de s'épuiser parce que y a des éléments qui ne font pas forcément naturellement partie de notre personnalité ou de nos savoir-être, enfin, on les appelle comme on veut. Mais voilà, la psychologie positive, elle dit que capitalisons sur nos forces plutôt que de chercher absolument à améliorer nos faiblesses au risque de nous épuiser finalement. Est-ce que du coup tu penses que on peut tous développer toutes les soft skills, ou est-ce qu'à un moment donné il faut savoir aussi se dire ben voilà, là je sais que sur ce point-là j'ai plus de difficultés, comment on fait pour savoir si on doit s'attarder sur le sujet ou pas?
C'est une bonne question, et en fait je dirais qu'il faut à la fois muscler nos forces, capitaliser sur nos forces, et aussi développer nos faiblesses. Alors, je m'explique. Moi, ma vision par rapport à ta question d'origine, c'est que tout le monde a toutes les soft skills en soi.
En stock. On les a tous en stock.
Voilà.
D'accord.
Moi, déjà, mon postulat de départ, c'est ça. C'est qu'on a tout ça en soi, et qu'après, c'est un choix stratégique de dire « Ok, je veux développer telle compétence ou pas ». Et après, la manière dont je fonctionne, c'est que je pars toujours du défi. Et je me dis quelles sont les compétences que j'ai besoin de développer pour relever le défi. Et dans ces compétences, s'il y en a qui sont déjà existantes comme des forces, tant mieux, je continue à les développer. Mais s'il y en a qui ne sont pas encore développées, c'est pas grave, je les développe parce que de toute façon, je peux les développer. Donc voilà pour moi ma vision des choses par rapport à cette question. Et du coup, ça s'inscrit, je pense, dans une forme de psychologie positive, parce que je ne vais pas être fataliste en fait par rapport à ce que je suis aujourd'hui, parce que je suis convaincu que je peux devenir la personne que j'ai envie de devenir.
D'accord. Ok, bien, mais écoute, merci pour ces précisions. J'aimerais aussi que tu me parles du mind mapping, ça m'intrigue beaucoup. Avant de revenir sur les championnats du monde, est-ce que tu peux nous expliquer aussi en quelques mots en quoi ça consiste?
Alors, le mind mapping est une technique de pensée visuelle, donc de structuration de l'information de manière visuelle. Ça a été créé par Tony Buzan il y a un peu plus de 40 ans. Et justement, c'est un outil qui permet donc de synthétiser, qui permet de mémoriser, qui permet de structurer les informations. Alors, des informations qui sont issues d'un livre, qui sont issues d'une vidéo, d'un cours, ou même qui sont issues d'une réflexion. En fait, ça sert à ça, le mind mapping. Et le mind mapping se repose sur du biomimétisme. C'est-à-dire que Tony Buzan, quand il a pensé à cet outil, il s'était dit, OK, à quoi ressemble la nature et comment je peux m'inspirer d'elle pour faire quelque chose qui soit le plus naturel possible pour le cerveau. Et du coup, c'est pour ça que dans le mind mapping, il y a des branches curvilignes, c'est très organique, et ce n'est pas des branches très dures et très... très, très dures et très droites, parce que ce n'est pas ce qui est le plus naturel, en fait. Et le mind mapping, je ne sais pas si parmi ton public tout le monde connaît, mais en gros on part d'une idée centrale, donc on part du centre de la feuille, et sur cette idée centrale, souvent c'est un dessin, un schéma et un mot-clé, et ensuite on en fait des branches radiantes du centre vers l'extérieur, du plus épais au plus fin, sur lesquelles on va écrire des mots-clés, donc c'est plein de couleurs, c'est plein de C'est plein de petites images. Donc, c'est quand même quelque chose de très agréable pour l'œil. Voilà ce qu'est le mind mapping.
D'accord.
Et pour moi, c'est aussi une manière d'entraîner mon cerveau. Parce que quand on construit une mind map, bah, ça demande de la concentration, ça demande de la créativité, ça demande de la capacité à structurer. Du coup, bah, tout ça, c'est un vrai entraînement du cerveau.
D'accord. Au-delà de cet entraînement du cerveau, en quoi ça peut être utile dans le quotidien, que ce soit à titre personnel ou professionnel, d'utiliser cet outil?
Bah, moi, j'utilise tous les jours cet outil en fait. Donc, j'utilise déjà pour prendre des notes sur des livres que je lis, des vidéos que je regarde, etc. Comme ça, après, je n'ai besoin que de regarder cette carte pour me rappeler du contenu du support. Je l'utilise également pour créer mes conférences. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour moi de mémoriser ça qu'un texte. Ensuite, je l'utilise beaucoup pour bah, structurer des projets aussi. J'utilise aussi parfois pour donner de l'ordre et de la visibilité sur mes to-do list. Quand je vois que je perds le contrôle et qu'il y a trop trop de choses à faire, paf, je mets ça sous forme de mind map et du coup, ça clarifie tout tout de suite.
D'accord, ok.
Voilà en gros. Après, il y a encore d'autres utilisations, mais ça, ce sont vraiment les utilisations principales que j'en fais.
Ok. Donc aujourd'hui, tu es champion du monde. Donc félicitations déjà, je ne l'ai pas
Merci.
dit tout à l'heure. Comment tu en es arrivé à aller jusqu'au championnat du monde? Explique-moi.
Alors, à l'origine, moi, j'étais pas prédisposé à ça, parce que moi,
Tu
d'origine,
rêvais pas de ça quand tu étais petit,
oh,
rassure-moi.
non. Je rêvais hein, de faire de la compétition, de gagner, etc. J'ai fait de la compétition sportive dans les arts martiaux et dans l'athlétisme. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en faisant des arts martiaux, à un moment donné, je commençais à m'entraîner aussi. J'ai testé un peu le MMA, le Mixed Martial Arts, et on m'a cassé une côte. Donc, du coup, j'ai arrêté tout ce qui était sport de combat. Je suis parti dans le yoga et du coup, bah, j'ai découvert plein d'autres trucs. Bon, aujourd'hui, bon, je fais le Kung Fu qui est un peu plus au milieu entre le yoga et le Mixed Martial Arts. Et entre-temps, j'ai découvert le mind mapping. Ben, en fait, c'est mon associé Nicolas Lisia qui, lui, est d'abord spécialisé en lecture rapide. Et en fait, on avait commencé à bosser ensemble jusqu'à devenir associé. Donc, il m'a formé à la lecture rapide. Mais ce qui était assez lié à la lecture rapide, c'est le mind mapping. Parce que c'est plus simple de prendre des notes au format mind map quand on lit et quand on lit vite, et plus simple à mémoriser. Donc, j'ai découvert ça par ce biais-là. Et lui, son objectif, c'était de faire venir Tony Buzan en France. Dès qu'on commençait à bosser ensemble, il m'a dit, voilà, c'était en 2015. Il disait, lui, il veut faire venir Tony Buzan en France. Je dis, bon, ok, je connais pas Tony Buzan. Et après, je commençais à chercher. Je fais, ah oui, quand même, c'est quand même quelqu'un de connu. Il a
Une
publié plus de
pointure,
100
oui.
livres, plus de 100 livres dans le monde traduits. Enfin, il a vendu des centaines de millions d'ouvrages. Inventeur du mind mapping, etc. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert le mind mapping. Et du coup, je commençais à le pratiquer, mais vraiment pas comme un compétiteur, même si j'ai été formé en tant qu'arbitre international pour le championnat de France qu'on organise. Je pratiquais un petit peu, mais pas en mode compétiteur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, Nicolas est parti au championnat du monde pour pouvoir bah, voir à quoi ça ressemble, pour pouvoir organiser nous ensuite le championnat de notre côté. Et donc, il n'a pas pu participer au championnat de mind mapping, il a juste fait la lecture rapide et il est revenu avec la médaille de bronze d'ailleurs. Et du coup, bah, cette année, je me suis dit, bah, voilà, notre champion, il va aller nous représenter encore une fois. Et il me dit, bah, non, cette année, il ne peut pas, ça va être à mon tour. Et là, on était déjà en octobre. Donc, je dis, bah non,
En
là.
octobre ou décembre.
Ouais, voilà. Je
D'accord.
dis, bah attends, non, moi, je pratique pas. Si je fais, là, ça va être vraiment compliqué. Après, non, il dit, vas-y, vois ça comme un challenge. En plus, c'est à côté de Hong Kong. Tu as toujours voulu aller à Hong Kong. Profites-en. T'as rien à perdre. Vas-y, vis l'aventure.
C'est pas toi tout à l'heure qui nous a parlé dans les soft skills du goût du défi, justement?
Oui, justement, oui. Donc, quand il m'a
Là,
dit
pour le
ça.
coup, c'était ça.
Ouais, clairement. Bah, au début, moi, j'étais pas super à l'aise parce que j'avais un voyage après, etc. Mais au final, donc, après des hésitations, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes billets d'avion. Je ne suis pas du tout, pas encore inscrit au championnat. J'ai d'abord pris les billets d'avion. Engagement psychologique fort en sortant la carte bleue. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, là, les navires sont brûlés, on peut plus reculer. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est fait.
D'accord. Et concrètement, alors comment ça se passe une fois sur place?
Une fois sur place pour le championnat?
Les épreuves, comment ça se passe une épreuve de mind mapping?
Bah, en fait, il y a eu trois épreuves de mind mapping. La première, c'est faire la mind map d'un discours. Ensuite, il y a eu l'épreuve de faire un mind map d'un écrit. Donc là, c'était un magazine de 300 pages. Et ensuite, l'après-midi, parce que là, c'est la première journée, l'après-midi, c'est ensuite une mind map qu'on appelle une mind map freestyle, c'est-à-dire une carte que l'on a préparée chez soi à l'avance, que l'on répète le jour J. Donc, la meilleure carte possible. Donc, ça, c'est la première journée. Et la deuxième journée, bah, c'est épreuve de lecture rapide.
D'accord. Comment tu t'es senti pendant toutes ces épreuves? C'est quoi les émotions à ce moment-là?
Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu déjà, arrivé à Hong Kong, c'était de l'excitation parce que c'était une vie que je rêvais en tant que pratiquant d'arts martiaux, la vie de Bruce Lee, de Ip Man, etc. Donc, j'étais tout fou. Ensuite, plus d'échéances arrivées et qu'on partait à Guangzhou, parce que c'était là qu'ont eu lieu le championnat, et bien là, la pression commençait à monter. Et en fait, ouais, pas mal de stress avant. Mais après, une fois pendant, bah, comme on est dans le flow, on n'y pense plus, en fait. C'est comme le saut en parachute, tout le stress avant de sauter, et après, une fois qu'on a sauté, bah, c'est génial. C'était un peu pareil.
D'accord, ok.
Et après, quand on a appelé mon nom, bah, c'était un peu comme les Oscars. Déjà, ils ont dit avec un accent chinois, parce que c'était les Chinois qui organisaient, que c'était moi. Et après, tout le monde me disait, vas-y, mais je comprenais, mais pour moi, ce n'était pas possible. Mais bah, en fait,
C'était
si.
pas possible pour toi que ce soit toi le champion?
Bah, en fait, oui et non. C'est-à-dire que je suis parti pour m'entraîner. Enfin, je me suis entraîné comme si, j'ai fait comme si je pouvais. Mais en même temps, quand je voyais ce que faisaient les Chinois et d'autres collègues, je me suis dit, bah, pff, le niveau est trop haut, ça va être chaud, quoi. Et je n'y pense, en fait, je me suis entraîné comme si, mais en même temps, je me suis détaché du résultat, donc je n'y pensais plus. Donc, j'étais focalisé pendant mes entraînements que sur le
Sur le
processus.
moment présent,
Donc,
finalement, c'est ça?
oui, quelque part, c'est
Ouais.
ça, oui.
Donc là, on a beaucoup parlé de ce que tu fais aujourd'hui, mais du coup, ce qui m'intéresserait aussi de savoir, c'est comment tu as fait finalement pour en arriver là. Je crois que tu viens de l'île de la Réunion, c'est ça? Et en termes de formation, qu'est-ce que tu as fait? Tu as grandi où? Tu as reçu quel type d'éducation? Tes parents faisaient quoi? Enfin, c'est quoi en fait finalement ton histoire avant tout ça?
Ah oui, d'accord. Donc là, on va
On va le
beaucoup
faire
plus loin.
rapidement si tu veux, mais en quelques mots.
Ouais, bah, du coup, bah, je viens de l'île de la Réunion. J'ai grandi à la plaine des Palmistes, qui est la plus petite commune de l'île de la Réunion. Mais ma famille est originaire de la ville du Tampon, qui est une commune du sud de la Réunion. Et j'ai passé ma vie jusqu'à l'âge de 20 ans. Mais j'ai quitté là, en fait, la maison familiale à 18 ans. Et à 20 ans, bah, j'ai eu bah, un diplôme d'école de commerce et de développement durable. Et je ne suis pas passé par la case salariat, en fait. Je suis parti tout de suite sur l'entrepreneuriat. J'ai testé plusieurs projets. Mais au final, ce qui a le plus fonctionné pour moi, bah, ça a été vraiment le coaching et la formation. Donc j'ai démarré par ça, ce qui a débouché par effet d'opportunité sur d'autres projets, comme la rencontre avec Nicolas Lézyak, comme les intelligences.com. Et voilà, en version très rapide.
Est-ce que pendant ton parcours, tu as eu des mentors ou des personnes qui t'ont particulièrement inspiré? Alors, tu nous as déjà parlé de plusieurs personnes, mais est-ce que tu as vraiment eu un ou plusieurs mentors significatifs dans ton parcours?
Bonne question. Alors, oui, j'en ai eu plusieurs. Après, des plus significatifs que d'autres, ça va être assez compliqué. Ben, je dirais quand même que y a eu, si, y a quand même eu Fabrice Mauléon, qui est devenu ensuite qui était en fait mon prof en école de commerce, et c'est lui qui nous a lancé, mon ami Julien Bourret et moi-même, sur la thématique des soft skills. Donc, du coup, on est devenus tous les trois les co-auteurs de l'ouvrage Soft Skills. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de nos études, donc moi j'avais déjà lancé mon entreprise pendant mes études.
Donc ton entreprise de coaching à ce moment-là, c'est ça?
Alors non, en fait, moi j'ai commencé par un blog sur l'entrepreneuriat, ça s'appelle pourquoientreprendre.fr.
D'accord.
Et le mot, enfin, lui avait c'était des petits revenus étudiants, en fait, c'était pas encore une vraie entreprise, on va dire, mais c'était bah, souvent des articles sponsorisés, etc. En fait. Et Fabrice, justement, il vient nous voir, il nous dit. Voilà, vous allez terminer vos études. J'aimerais que vous formiez la prochaine promo sur un cours que vous auriez toujours rêvé avoir, mais que vous n'aviez jamais eu.
Waouh, superbe.
C'est là qu'on a lancé le concept des soft skills, en fait, et on a commencé, finalement, ma carrière a démarré en tant que prof vacataire dans mon école de commerce à laquelle j'allais être diplômé en tant qu'étudiant.
Tu étais toujours étudiant à ce moment-là.
C'était un peu ça, voilà, c'était un peu sur la D'accord. fin. C'était assez marrant comme situation.
Comme concept, oui, j'imagine. Et c'était bien vu de la part des étudiants, justement, auprès desquels tu enseignais ?
Alors, j'appréhendais beaucoup parce que forcément, il y avait même des étudiants qui étaient plus âgés que moi, etc. Mais en fait, en fait, je me suis rendu compte que déjà, si on sait de quoi on parle et que ce qu'on apporte a de la valeur, si on est aligné avec notre message et que on est authentique, en fait, ça passe super bien, en fait. Mm-hmm. Et je pense qu'ils vont apprécier le côté non professeur, justement. On n'est pas des profs. Mm-hmm. Et ça, je pense que ça a été apprécié. Au final, oui, ça s'est très bien passé.
Oui, finalement, on est des gens comme vous. On vient partager sur des sujets concrets pour vous parce qu'on connaît votre... on est à votre place aussi, donc on sait ce dont vous avez besoin, ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Donc il y a une forme de, peut-être de complicité qui est différente finalement, non ?
Oui, bah oui, clairement, oui. C'est ça.
Et du coup, de tout ton parcours, parce que du coup, c'est vrai que ça fait envie quand même de se dire... Tu es parti de l'île de la Réunion et aujourd'hui tu es champion du monde de mind mapping, même s'il n'y a pas que ça, hein, c'est juste parce que c'est vraiment la dernière actualité récente, on va dire. Quelles sont les leçons de vie vraiment que tu retiens de tout ton parcours ?
Qui est qu'au début, j'aime
bien. Oui, certainement.
Je viens de dire que je suis au début de mon parcours aussi, parce que j'ai que 30 ans. du coup,
une idée clé ou vraiment un fil conducteur, quelque chose qui est vraiment fort chez toi et que tu voudrais partager?
Ouais, je pense qu'il y a vraiment cette notion du défi, en fait. Vraiment de se dire, ok, vois ça comme des défis, même si c'est difficile, vois ça comme un défi et tu verras que tu vas progresser. Et plus c'est dur, en fait, ça, à chaque fois, c'est ce que je me dis, plus c'est dur, plus tu progresses. Et je pense parce que, oui, comme tu disais, moi, je viens de la plus petite commune de l'île de la Réunion, j'avais zéro contact, etc. Donc, finalement, je me suis dit que c'est le côté aussi un peu naïf, je ne sais pas ce que je ne sais pas, donc du coup, j'ose plus. Et c'est ce côté un peu inconscient qui permet d'oser plus, en fait. Donc, je dirais, il y a la notion de défi, la notion d'audace, la notion de confiance aussi. Faire confiance au process, faire confiance aux opportunités. Mmh. Et en fait, je pense que c'est ça qui génère des opportunités parce que le défi change le mindset en étant vraiment optimiste. Hein, on parlait de psychologie positive. Je parle aussi donc d'audace. Donc, du coup, de saisir les opportunités que l'on peut générer par ces mindsets. Et ensuite, la persévérance. Vraiment. Persévérer.
D'accord. Ce que tu es en train de dire, si je comprends bien, mais dis-moi si je me trompe, c'est que finalement, voir les situations comme un défi, mais comme quelque chose de positif, comme une opportunité d'avancer et de progresser, plutôt que comme une problématique ou une difficulté, une montagne qui arrive dans notre vie et qui est finalement quelque chose de problématique, c'est ça ?
Oui, clairement, pour moi, c'est en fait, il y a un passage aussi, les gens ne savent pas trop, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit, le mec optimiste, il sourit tout le temps, il voit la difficulté comme une opportunité, etc. Et en fait, je n'étais pas du tout câblé comme ça avant. Moi, j'étais très, très pessimiste, très déprimé, alors je ne vais pas dire dépressif, parce que j'étais un peu jeune pour... savoir si c'était la dépression ou pas, mais clairement pas dans un mindset de psychologie positive. Et en fait, c'est en découvrant ça que je me suis dit, on peut forger son cerveau, trouver des parades pour que même si on a la tendance à... Enfin, en tout cas, je vais plutôt utiliser le « je » parce que je ne vais pas mettre ça pour tout le monde, mais même si j'ai tendance à, par facilité ou raccourci neuronaux, aller vers le pessimisme, l'anxiété, etc., eh bien, j'ai musclé mon cerveau pour que, de manière consciente, je choisis l'autre voie qui est plus bénéfique pour moi et pour les autres.
Et alors, du coup, si tu avais une astuce ou un conseil à donner justement pour muscler ton cerveau, avoir cette tendance plutôt optimiste que pessimiste, ça serait quoi ?
Ouais, je pense qu'il y a toujours cette histoire de transformer la difficulté en défi.
D'accord.
Et après, il y a plein d'autres petits trucs. Il y a des trucs tout bêtes, en fait, c'est se forcer à sourire, même, surtout si ça va
Oui, je suis d'accord. Ouais, je suis
pas.
d'accord.
Et plus ça va pas, plus se forcer à sourire pour faire un espèce de court-circuit où le corps, il comprend pas. Le corps oblige le cerveau, en fait, à générer des trucs positifs. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place aussi. Et je fais très attention aussi à mon discours interne. Parce que justement, mon discours interne peut souvent être pessimiste, voire destructeur. Et du coup, ben, je fais attention à ça. Et si jamais je sens que je pars là-dedans, eh bien, alors, contrairement à ce que vous pourrez penser, je ne vais surtout pas faire de méditation parce que ça va amplifier le tout. Si je sors ces pensées-là, ben, je vais mettre plus la conscience là-dessus. Du coup, ça va amplifier. Donc, non, je vais générer. En fait, d'autres pensées positives en faisant des trucs que j'aime. Et du coup, bah, ça va beaucoup mieux après.
Ouais. C'est un sujet que j'ai déjà abordé dans un précédent épisode, justement, où j'insiste bien sur le fait de faire attention aux mots que l'on utilise, mais les mots qu'on utilise dans nos pensées, hein, pas forcément à l'oral, mais quoique si également, mais qu'effectivement, on peut avoir des mots, alors ce que j'avais appelé dans cet épisode-là, des mots toxiques, finalement, qui ont un impact, on n'en a pas conscience forcément, mais qui ont un impact vraiment très très important sur notre inconscient et sur la confiance en soi, et de réussir à identifier les mots toxiques que l'on utilise dans nos pensées, parce que notre cerveau, il est traversé par des milliers de pensées tous les jours, et de réussir à les transformer en mots positifs. Et ça a un impact vraiment très très important, justement, sur ce que tu dis, le discours interne et ce côté optimisme et confiance en soi aussi. C'est ça dont tu es en train de parler?
Ouais, clairement. Clairement, c'est attention aux mots que l'on prononce et des mots que l'on ne prononce pas non plus aussi, parce qu'ils sont quand même présents. Et faire attention aussi à ses émotions, parce que pour moi, les émotions, c'est quelque chose, c'est une vraie information. Et par exemple, bah, si des fois, je ne me sens pas bien, mais j'ai aucune idée de la raison. La raison logique à ça, eh bien, je n'ai pas cherché plus que ça, je vais juste prendre soin de moi. Donc, si ça ne va pas, je prends soin de moi. Si ça va bien, j'en profite et bah,
Je
je peux faire un peu
capitalise.
plus de... Voilà.
Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup Jérôme pour tous ces échanges. Moi j'ai été passionnée par tout ce que tu viens de nous raconter, donc c'est un vrai plaisir. Pour les auditeurs qui voudraient éventuellement te suivre ou te contacter, comment c'est possible, où est-ce qu'on peut te trouver?
Bah, on me retrouvera sur bah, lesintelligences.com, dont on parlait tout à l'heure. On peut me retrouver aussi, sinon, sur jérôme-waro.com, Waru, pour Waro. Et là, on peut retrouver mon site personnel où bah, j'explique ce que je fais, les ateliers ou les conférences, les prochaines conférences que je fais, etc.
Ok.
Et sinon, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Instagram aussi.
On veut te poser des questions, est-ce que les auditeurs peuvent te contacter? Est-ce que tu réponds assez facilement?
Oui, alors si ce sont des questions, eh bien, privilégier par exemple Facebook, j'ai une page professionnelle.
D'accord.
C'est plus simple pour moi de gérer les emails. J'ai moins d'emails par là, donc du coup, parce que j'ai plus de facilité à les voir que sur ma boîte qui est inondée. Sinon, Twitter aussi, c'est quelque chose sur lequel je suis assez réactif.
D'accord, ok. Et donc une dernière question si tu veux bien, c'est quoi ta prochaine actualité? Où est-ce qu'on te retrouve? Un prochain livre? Un prochain championnat du monde? Enfin, c'est quoi ta prochaine actualité?
Bah là, l'actualité chaude du moment, c'est l'organisation du championnat de France. Parce que cette fois-ci, on est passé au niveau supérieur. Il y aura beaucoup plus de compétiteurs. On le fait à la Cité de la Science à la Villette. Donc, ça a lieu le 4 octobre.
D'accord.
C'est le championnat de France de lecture rapide et de mind mapping. Et on est même en train de créer une équipe avec mon associé, la Nicolas, pour coacher les personnes qui nous suivent sur passiondapprendre.com. Donc voilà l'actualité chaude du moment.
C'est ouvert au public également si on veut venir sans forcément y participer, mais on peut aussi y venir en tant que spectateur.
En fait, je préfère dire non parce que ce sont des épreuves qui demandent un haut niveau de concentration.
D'accord.
Et comme on sera déjà très nombreux en tant que compétiteurs, si chacun ramène une personne, ça va être compliqué. En revanche, après, c'est la villette. Donc, c'est-à-dire que les personnes peuvent venir, etc., échanger avec les compétiteurs. Mais sur le lieu des épreuves, c'est pas l'optimal.
Ça marche.
Par contre, c'est un lieu génial et on peut venir sur place. Il y a énormément de choses à faire. C'est assez
d'accord.
top
Donc,
pour
tu
ça.
nous as dit le 4 octobre 2019.
4 octobre 2019, voilà, championnat de France de lecture rapide et mind
Bon,
mapping.
eh bien, écoute, moi, j'ai mon agenda juste à côté de moi.
Ah.
Donc, je vais m'empresser de noter la date et je vais suivre ça avec impatience. Et puis, mais écoute, j'espère peut-être t'y croiser.
Eh ben,
Pourquoi pas?
si tu veux relever des défis, n'hésite pas à rejoindre notre équipe. Voilà, on a déjà prévu les séances de coaching et tout ça. On parlait de défis. Si tu as envie de donner un défi pour ton cerveau pour développer de nouvelles compétences, bah, c'est le moment.
Bah, écoute, tu sais, ce que je vais faire, ce que je te propose, c'est que je vais me fixer une réunion mensuelle avec moi-même et puis je vais me
Voilà.
poser les questions et je reviens vers toi pour te donner ma réponse et te faire un retour.
Ça marche. Je m'en fais
Ok,
beaucoup.
bon, bien. Bah, écoute, merci beaucoup Jérôme, encore une fois pour ces échanges, c'était un vrai plaisir. Et puis, je te dis à très bientôt.
Merci beaucoup, à très bientôt.
Merci Jérôme, au revoir. Rebonjour à tous. J'espère que vous avez apprécié cette rencontre et comme d'habitude, je reviens dans cette deuxième partie pour approfondir quelques points avec vous. Je souhaiterais revenir sur des notions importantes qui ont été évoquées par Jérôme pendant cette interview. Il nous a parlé des soft skills qui sont selon lui les plus importantes dans le monde du travail actuel, à savoir la capacité à apprendre et la capacité à s'adapter. Enfin, il nous a aussi parlé de l'importance selon lui de faire de chaque situation un défi, de chaque difficulté une opportunité de grandir et d'apprendre. Selon moi, ces sujets sont effectivement très liés et très importants, à la fois d'un point de vue professionnel, mais aussi personnel d'ailleurs. Et je pense que la priorité est avant tout dans le fait de réussir à transformer les situations en un réel défi à relever. Car c'est le fait de voir ces situations de vie comme un défi et non pas comme un problème, une difficulté ou une malchance ou autre. C'est bien le fait de voir le défi qui va vous permettre de développer votre capacité à apprendre et votre capacité à vous adapter. C'est-à-dire que si vous rencontrez une difficulté professionnelle, par exemple, un changement d'organisation ou le fait de travailler sur un nouveau projet totalement inconnu qui pourrait faire peur, si vous voyez dans cela le challenge à relever, une opportunité d'apprendre et d'avancer, c'est ça qui vous donnera l'envie de vous investir, de découvrir, d'apprendre, de faire preuve de flexibilité pour faciliter le travail et le faire avancer. Parce qu'à l'inverse, si vous percevez cette situation comme un problème ou une difficulté insurmontable, vous allez, consciemment ou pas, plutôt vous fermer à toute évolution, à tout changement, à tout apprentissage, vous allez vous renfermer et faire preuve de rigidité, c'est-à-dire aller totalement à l'opposé de ce que nous recommande Jérôme en termes de soft skills à développer et dont il faut faire preuve, notamment dans le monde du travail d'aujourd'hui. Donc selon moi, la priorité est bel et bien de développer cette aptitude à voir dans chaque situation un défi pour vous mettre dans un état d'esprit qui vous sera favorable à l'apprentissage et à l'adaptation. Pour cela, il y a une notion particulièrement importante selon moi, que nous avons d'ores et déjà abordée dans ce podcast d'ailleurs, qui est la notion d'interprétation. Les neuroscientifiques ont déterminé que notre cerveau est traversé chaque jour par un nombre très important de pensées, entre 70 000 voire 700 000 pour certains. Ces pensées, en fonction de leur nature, si elles sont positives ou négatives, agréables ou désagréables, vont colorer les émotions que nous ressentons, qui elles-mêmes vont déterminer nos actions, nos comportements, et ainsi les résultats que nous obtenons dans notre vie. Ces pensées sont le fruit de notre histoire personnelle et individuelle et sont la traduction de l'interprétation que nous faisons des situations, des événements, des faits ou des choses qui nous entourent. Et nous avons tendance à souvent faire porter la responsabilité de notre bien-être et de notre bonheur à des éléments ou à des faits extérieurs. Or, dans la mesure où nous sommes 100% responsables de notre système de pensée et donc de notre système d'interprétation, cela signifie qu'en réalité, nous sommes 100% responsables de nos émotions et de notre bien-être. Il est donc intéressant, dans certains cas, de changer de regard et changer d'interprétation sur une situation, si besoin, et de choisir les pensées qui nous sont le plus utiles. À partir de là, pour réussir à voir le défi dans une situation, cela va dépendre de l'interprétation que vous faites et des pensées que vous allez alimenter sur le sujet en question. Est-ce que, si je prends mon exemple de tout à l'heure, l'interprétation que vous faites du fait d'avoir à travailler sur, par exemple, un nouveau dossier, et que c'est une situation vouée à l'échec, que vous vous dites que c'est trop compliqué pour vous, que vous n'arriverez pas, que les conséquences seront dramatiques, que ce projet n'est pas utile pour l'entreprise, ou je ne sais quelle autre pensée peu constructive. Il est évident que ce type d'interprétation ne vous donnera pas envie de relever ce challenge. À l'opposé, si votre interprétation est plutôt de vous dire que vous ne connaissez pas ce sujet et qu'il peut vous permettre de voir et découvrir autre chose, de travailler avec de nouvelles personnes, de donner une perspective nouvelle à votre travail, à votre métier, d'ajouter une corde à votre arc, etc., etc. Cette perception peut vous donner davantage l'envie d'aller de l'avant et de relever ce défi. Pourquoi ? Parce que ces pensées vont alimenter, vont produire des émotions qui vont vous mettre en dynamique, des émotions agréables qui vont vous donner de l'énergie et l'envie d'aller de l'avant. C'est le lien qui est fait entre la notion d'interprétation et la notion d'intelligence émotionnelle. C'est un thème dont nous entendons parler de plus en plus et qui est une compétence de plus en plus demandée. L'intelligence émotionnelle est une soft skill. C'est un concept qui a été proposé par plusieurs psychologues et notamment l'américain Daniel Goleman. Il s'agit d'une compétence qui se résume en, d'une part, la capacité à reconnaître, à identifier, à comprendre et à maîtriser nos propres émotions, et d'autre part, la capacité à composer avec celles des autres, c'est-à-dire à percevoir leurs émotions et adapter notre comportement en conséquence. D'ailleurs, avant de comprendre celles des autres, il est important de comprendre ses propres émotions, comme je viens de le dire, et je vous rappelle un principe évoqué dans l'épisode 16 de ce podcast. Les émotions sont un moyen de comprendre et d'obtenir des informations sur ce qui se passe en nous. Elles viennent nous informer d'un besoin et elles nous servent de GPS en quelque sorte pour agir et nous indiquer la voie à suivre pour aborder une situation. Donc le lien entre intelligence émotionnelle et interprétation tient au fait que nos émotions sont directement liées à nos pensées. Donc si je résume tout ce que je viens de vous évoquer, l'important est d'apprendre à voir dans chaque situation un défi, notamment parce que cela va vous permettre de faire preuve et de développer les soft skills les plus importantes selon Jérôme Haro, notre expert en soft skills, à savoir la capacité à apprendre et la capacité d'adaptation. Et pour réussir à visualiser ce défi, il faut donc travailler sur votre interprétation du contexte et ainsi développer des émotions agréables et favorables et faire preuve d'intelligence émotionnelle. Pour ceux pour qui tous ces sujets semblent difficiles à aborder de manière seule, il existe plusieurs possibilités de vous faire accompagner par un professionnel, quel qu'il soit, qui vous apportera des outils et vous guidera dans tout ce cheminement. Voilà pour ce 17e épisode. J'espère qu'il aura été inspirant pour vous. Je vous rappelle que si vous souhaitez me contacter, plusieurs possibilités. Tout d'abord, le site internet www.cbcoach.fr ou encore les réseaux sociaux via LinkedIn ou encore ma page Facebook CBCoach ou enfin mon compte Instagram CBCoach51. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.